La question concerne le capteur infrarouge 3, enfin 3D de PrimeSense qui équipe la console Microsoft qui s'appelle Kinect. PrimeSense, c'est une petite société, à mon avis, elle va grossir assez vite, israélienne, qui propose à la fois le capteur et derrière un chip qui permet de faire du traitement postural, justement. Est-ce que ce genre de capteur pourrait, en particulier par exemple pour les sanitaires, comme ce n'est pas une vraie image très, très précise, est-ce que ça pourrait compléter vos systèmes de façon intéressante et en plus les coûts sont assez intéressants, je pense.
Oui, même d'une manière générale, hein, autrement que seulement les sanitaires. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder à suite à tout ce qui a pu se passer en fin d'année dernière. Alors le Kinect en lui-même, il a une problématique d'angle qui est un peu trop faible pour nous, mais il existe d'autres capteurs du même type qui ont des angles beaucoup plus grands qui permettraient de répondre à notre problématique. Alors on est à la phase zéro aussi de ça. On regarde un petit peu, voilà, parce qu'on est encore petit, hein, on n'a pas énormément de ressources de R&D, donc il faut qu'on se concentre un peu. Mais c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, effectivement.
Par rapport à ce que justement votre marque là des capteurs infrarouges. Alors effectivement, on peut l'utiliser aussi, c'est ce qu'on fait par exemple dans notre projet aussi, avec un capteur infrarouge tout simple de présence, qui peut permettre aussi de savoir lorsque la personne est rentrée, il n'y a plus d'activité, et donc on a une pré-alarme, comme vous dites, pré-alerte plutôt. Bon, bien sûr, c'est pas de la détection posturale, hein, c'est juste oui, non, quoi. Mais ça permet quand même d'avoir une information aussi, on va dire, de pré-détresse, quoi, voilà. C'est vrai que les capteurs infrarouges, c'est très intéressant justement par rapport à ces aspects dans les zones. Si vous combinez ça avec la vision, c'est effectivement.
Surtout si vous êtes câblé, parce qu'un des problèmes, c'est quand même la consommation d'énergie pour les diodes d'éclairage, qui fait que sur des systèmes autonomes, ça peut poser un problème. Mais par contre, si vous êtes câblé, raccordé au réseau électrique, c'est du bonheur.
Ouais, et puis les capteurs Legrand, par exemple, enfin, sans faire de publicité, mais ou d'autres marques, hein, c'est des capteurs maintenant Zigbee, donc ils ont une autonomie de 2 ans avec leur pile, donc ils sont tout le temps, vous voyez. Donc on peut aussi. Alors nous, on a le capteur de chute, effectivement, aussi, qui peut être porté par la personne, qui peut donner une information complémentaire aussi, s'il est porté, bien sûr. Mais effectivement, il faut toujours raisonner en se disant, s'il n'est pas porté. Effectivement, la vision et les capteurs de présence sont là pour compenser, enfin pour nous, hein, bien sûr, de vue. Mais vue, je pense que c'est effectivement une approche complémentaire. Ouais.
J'avais justement une question sur le capteur de chute et plus précisément la fonction d'appel d'urgence donc qui serait activée par la personne qui porte ce capteur. Comment est transmis dans ce cas-là l'appel? J'ai compris qu'il y avait un capteur Zigbee pour envoyer régulièrement l'information. Est-ce qu'on réutilise ce moyen ou est-ce qu'il faut avoir un lien plus direct et une autre technologie pour faire l'appel proprement
Alors,
dit?
Effectivement, nous, on s'est intéressé surtout à la partie capteur détection, en fait, hein, d'alerte automatique. Donc, c'est quand la personne tombe ou fait un mouvement anormal, il y a et qu'elle chute, bien sûr, et qu'elle se retrouve sur position allongée. Donc, après confirmation, parce que, en fait, déjà dans le capteur, il y a une fusion qui est faite au niveau des capteurs. Parce qu'en fait, le capteur de chute, c'est plusieurs capteurs, en fait, hein, de mouvement, d'inclinaison et d'accélérométrie. Et si effectivement elle chute, à ce moment-là, il y a une alarme qui est envoyée. Donc là, effectivement, on va parler d'alarme. Hein. Il faut qu'elle soit validée par le centre d'appel du SAMU. Et à ce moment-là, il y a un appel qui est fait automatiquement. Et là, pour l'instant, c'est fait sur une base. Aujourd'hui, bon, enfin, je cite leur système. Ils ont un système qui s'appelle Serenitis, hein, qui est un espèce de main libre, si vous voulez, un poste main libre. Et à ce moment-là, il faut que la personne entende. Alors, l'idéal, et ça, c'est ce à quoi on pense pour la suite, c'est effectivement d'avoir un système, de travailler sur un système qui serait portatif, enfin, profiter de ce système portable pour avoir un lien de transmission vocale, hein, ou alors avoir effectivement utilisé un capteur comme le capteur d'AKG dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a une amélioration de rapport signal à bruit et permettrait à ce moment-là une captation soit de cris de détresse ou éventuellement si la personne est restée consciente, de pouvoir s'adresser à son médecin à distance. Voilà. Mais effectivement, c'est très important. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, franchement, effectivement, on n'a pas le lien, on n'a pas ce lien, hein. C'est quelque chose qu'il faut voir effectivement en plus, quoi. Voilà. On utilise un lien existant. Voilà, mais effectivement, c'est donc le bouton d'appel, je reprécise, c'est un bouton simplement si la personne se sent mal. C'est comme, si vous voulez, le pendentif d'Orange, hein, c'est pareil. Donc on appuie sur le bouton. Et voilà. Donc pour l'instant, on en est là, au niveau du bouton d'alarme, hein, je parle.
J'ai une petite question sur votre business model. Vous avez parlé effectivement que quand vous équipiez les domiciles des particuliers, si j'ai bien compris, c'est sans doute subventionné, voire gratuit, et vous faites payer ensuite, à l'heure, un certain forfait.
Oui.
Et ma question est pour les établissements accueillant des personnes âgées, j'imagine que vous avez un autre business model, parce que là, ils ont quand même des moyens, ils pourraient payer en particulier des systèmes décentralisés de traitement d'images, des choses beaucoup plus...
On aimerait bien qu'ils aient des moyens.
Non.
Mais on a effectivement un autre modèle. On est en modèle service à la personne pour le domicile, et on est en modèle VAR pour les établissements. Donc on leur revend le système complètement, donc ils sont à la fin... propriétaires des caméras, propriétaires des serveurs, et on fait de la maintenance du système. Ils sont, en fait, ils sont capables d'être autonomes sur le système. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est quand même un système un peu complexe, donc on leur laisse pas la main sur le paramétrage, on gère ça à travers la maintenance. Mais voilà, on est vraiment dans un modèle de vente versus un modèle de service sur le domicile. Alors, il n'est pas interdit dans l'avenir qu'on fasse un peu un modèle intermédiaire pour l'établissement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Et aujourd'hui, vos revenus se partagent en combien par rapport aux particuliers et aux établissements ?
Aujourd'hui, on a à peu près 600, un peu plus de 600 implantations réalisées, dont plus de 500 en établissement. Alors, la raison à ça, c'est qu'on a choisi de ne pas vendre en direct sur le particulier. On le fait de manière opportuniste, mais on n'a pas choisi de développer de réseaux, de faire de publicité, etc. Et donc, on a un modèle de vente indirect, B2B2C, avec des partenaires. J'avais un petit slide là-dessus, je vais vous mettre deux secondes. Et ce modèle-là, il est seulement maintenant en train de se développer. Et donc, on devrait normalement en 2011 concrétiser des accords avec ce genre d'acteurs, hein, des sociétés de maintien à domicile, des assureurs, des collectivités, qui vont proposer ce service-là. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a assez peu de modèles domicile parce qu'on l'a fait avec quelques partenaires, des petits partenaires. On l'a fait pour valider notre technologie. Mais ce qui nous fait vivre, finalement, aujourd'hui, c'est quand même l'établissement, clairement. Mais c'est pas ce qui nous fera vivre à l'avenir. Ce qui doit nous faire vivre à l'avenir, c'est le domicile.
En particulier, il peut y avoir des prescripteurs qui, eux, ont de l'argent. Je vois les assureurs, là, ça peut être un...
Oui, on espère bien. Voilà, et donc on a un service par brique, quoi, finalement. Hein. Notre cœur, c'est la vigilance. On ne prétend pas faire de l'assistance mieux que l'assisteur. On le fait, encore une fois, aujourd'hui, de manière opportuniste, parce qu'il faut le faire. Mais demain, si on alors je le dis, on n'a pas particulièrement de choses avec eux. On fait des choses avec Europe Assistance ou Mondial Assistance. Ils vont faire de l'assistance bien mieux que nous. Voilà. Donc ces briques-là sont des briques qu'on peut ou pas proposer, quoi.
Parce que nous, on est. Enfin, c'est juste pour faire un petit peu de. Actuellement, notre collègue Mounir Mokhtari, qui est professeur à Télécom Sud Paris, a créé une chaire de recherche là-dessus, sur la qualité de la vie. Et effectivement, un des premiers acteurs, les premiers acteurs qui ont accepté de participer sont des assurances, donc la Mutuelle Générale. Et actuellement, on est en négociation avec d'autres. Donc effectivement, c'est ils sont très intéressés pour. Voilà, donc si vous voulez des renseignements d'ailleurs sur cette, enfin, participer, mon collègue Mounir Mokhtari est le coordinateur de cette chaire.